Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ainsi parlait Zarathoustra, publié en quatre parties entre 1883 et 1885, occupe une place singulière dans la philosophie de Friedrich Nietzsche. Le livre ne prend ni la forme d'un traité systématique, ni celle d'un roman ordinaire. Il met en scène Zarathoustra, sage retiré dans la montagne, puis revenu parmi les hommes, à travers des discours, des paraboles, des chants et des figures allégoriques. Nietzsche y examine la crise des valeurs européennes après la mort de Dieu, formule qui désigne la perte de force des fondements religieux et moraux traditionnels. Son enjeu n'est pas de fournir une doctrine de remplacement prête à être appliquée, mais de penser les conditions d'une création de valeurs affirmant la vie. Les notions de surhumain, de dernier homme, de volonté de puissance et d'éternel retour structurent cette œuvre dense. Son langage volontairement poétique, proche par moments du ton prophétique et biblique, exige une lecture lente. Zarathoustra associe ainsi critique culturelle, expérimentation littéraire et interrogation radicale sur ce que peut devenir l'être humain. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la mort de Dieu comme diagnostic de la crise des valeurs. Dans Zarathoustra, la mort de Dieu ne constitue pas seulement une profession d'athéisme. Elle désigne un diagnostic historique et culturel. Les valeurs qui avaient donné un ordre supérieur au monde, notamment les valeurs chrétiennes, perdent leur autorité sans que les individus aient nécessairement élaboré de nouvelles orientations. Nietzsche décrit alors le risque du nihilisme, soit la conviction que rien ne possède de valeur ou de sens. Le problème central n'est donc pas la disparition d'une croyance isolée, mais le vide normatif qui peut suivre cette disparition. Zarathoustra refuse aussi bien le retour nostalgique vers les anciennes certitudes que le désespoir passif devant leur effondrement. Il demande de reconnaître que les valeurs humaines sont créées, interprétées et réévaluées. Cette position implique une responsabilité plus lourde que la simple obéissance à une loi reçue. Elle expose aussi le lecteur à une difficulté réelle, car Nietzsche ne propose pas un code moral alternatif. Il met plutôt à l'épreuve les morales qui valorisent le renoncement, la culpabilité ou la négation des forces vitales. Le livre transforme ainsi la crise du sens en question active. Comment vivre et juger lorsque aucune autorité transcendante ne garantit plus à l'avance le bien, le vrai et la finalité de l'existence ? Deuxièmement, le surhumain est la création de valeurs plutôt que la domination. Le surhumain constitue la figure la plus célèbre et la plus souvent déformée de l'ouvrage. Il ne désigne ni une race biologique, ni un programme politique, ni un individu autorisé à opprimer les autres. Chez Nietzsche, il sert à penser le dépassement de l'homme tel qu'il est devenu, soumis à des valeurs héritées et à des habitudes de conformité. Zarathoustra présente l'homme comme un passage, non comme un accomplissement définitif. Le surhumain représente donc une exigence de transformation, par laquelle les instincts, les conflits intérieurs et les capacités créatrices sont organisés sans être niés. Cette idée se comprend avec les trois métamorphoses de l'esprit. Le chameau porte les fardeaux des devoirs reçus. Le lion conquiert la liberté en disant non aux anciens commandements. L'enfant figure enfin un commencement capable de jeu, d'innocence et de création. La séquence évite de confondre libération et simple destruction. Dire non aux valeurs dominantes ne suffit pas. Il faut pouvoir créer et affirmer. Le surhumain ne fournit donc pas un modèle psychologique achevé à imiter. Il est un horizon critique qui mesure la distance entre une existence gouvernée par le ressentiment et une existence capable de produire ses propres évaluations. Cette ambition explique à la fois la puissance du concept et les usages idéologiques abusifs dont il a fait l'objet. Troisièmement, le dernier homme est la critique du confort sans dépassement. La figure du dernier homme répond au surhumain comme son contraste. Zarathoustra présente devant une foule qui préfère la sécurité au risque de la transformation. Le dernier homme ne se caractérise pas par une méchanceté exceptionnelle, mais par une réduction des aspirations humaines. Il cherche une existence confortable, prévisible et protégée de toute intensité susceptible de troubler son bien-être. Il évite les grands engagements, les conflits créateurs et les ambitions exigeantes. Nietzsche ne condamne pas ici le repos ou le bonheur en eux-mêmes. Sa cible est une culture qui fait de la préservation du confort le critère suprême de toute valeur. Dans cette logique, ce qui dépasse la moyenne paraît dangereux, inutile ou suspect. La critique vise également la tendance à vouloir éliminer toute différence de rang entre les formes de vie, non au sens social ou juridique, mais au sens des capacités de création, de discipline et de dépassement. Le dernier homme représente alors une réponse passive à la mort de Dieu. Plutôt que de créer de nouvelles valeurs, il abaisse ses attentes afin de ne plus éprouver le vide. Cette opposition demeure intellectuellement féconde car elle interroge les formes modernes de conformisme, de distraction et de contentement. Elle doit toutefois être lue avec prudence sans en tirer une célébration simpliste de la dureté ou du mépris envers autrui. Quatrièmement, l'éternel retour comme épreuve d'affirmation de l'existence, la doctrine de l'éternel retour est moins une cosmologie exposée avec démonstration qu'une épreuve existentielle. Zarathoustra invite à imaginer que chaque événement de sa vie devra revenir indéfiniment, dans le même enchaînement. La question décisive devient alors la suivante. Pourrait-on vouloir à nouveau cette existence entière, avec ses joies, ses pertes, ses erreurs et ses souffrances? Cette pensée ne demande pas de nier la douleur, ni de déclarer toute situation objectivement bonne. Elle mesure plutôt la capacité de dire oui à la vie, sans exiger qu'elle soit purgée de tout hasard, de tout échec et de toute contradiction. Elle s'oppose ainsi aux morales qui déplacent la valeur de l'existence vers un autre monde ou vers une récompense future. Accepter l'éternel retour supposerait de ne plus vivre dans le regret comme si le passé devait être annulé, ni dans l'attente d'une délivrance qui justifierait le présent. Cette exigence rejoint le thème de l'amor fati, l'amour du destin, même si cette formule est développée plus explicitement dans d'autres textes de Nietzsche. Le lecteur doit néanmoins éviter de réduire l'éternel retour à un slogan optimiste. Il désigne une pensée éprouvante, qui confronte chacun à son rapport au temps, à la responsabilité et à la répétition. Sa force vient précisément de cette tension entre affirmation et difficulté. En dernier lieu, une écriture prophétique qui refuse le traité philosophique, la forme de Zarathoustra est inséparable de son contenu. Nietzsche fait parler un personnage inspiré par le prophète perse ancien, mais il détourne la posture prophétique. Zarathoustra annonce des renversements de valeurs sans fonder une religion nouvelle ni réclamer une obéissance doctrinale. Ses discours alternent avec des rencontres, des chants, des images animales, des scènes satiriques et des passages lyriques. Cette composition rend la lecture moins linéaire qu'un traité argumentatif. Les idées ne sont pas toujours définies puis démontrées. Elles sont mises en mouvement par des métaphores, des oppositions et des reprises qui sollicitent l'interprétation. Le ton biblique permet notamment à Nietzsche de parodier les formes de la prédication tout en leur empruntant leur puissance rythmique. Cette stratégie correspond à sa critique de l'esprit de système. Il veut éviter que sa pensée soit transformée en catéchisme. La difficulté du livre vient donc autant de sa langue que de ses concepts. Une lecture attentive gagne à distinguer les voix, les images et les cibles polémiques plutôt qu'à chercher immédiatement une thèse isolée dans chaque chapitre. Cette richesse formelle explique la place durable de l'ouvrage entre philosophie et littérature. Elle explique aussi pourquoi les traductions, les annotations et les relectures comptent particulièrement. Zarathoustra ne livre pas un message univoque, mais organise une expérience critique de la pensée. En conclusion, ainsi parler Zarathoustra convient au lecteur disposé à aborder la philosophie comme une pratique de lecture exigeante plutôt que comme un ensemble de réponses stabilisées. Il intéressera particulièrement les personnes qui étudient Nietzsche, le nihilisme, la critique de la morale, l'existentialisme ou les relations entre littérature et philosophie. Une première lecture peut bénéficier d'une édition annotée et d'un rythme lent, car les concepts reviennent sous des formes imagées et les passages satiriques visent souvent des traditions philosophiques, religieuses ou culturelles précises. Le gain intellectuel principal réside dans la capacité du livre à déplacer les questions morales. Au lieu de demander seulement quelles règles doivent être suivies, il demande quelles formes de vie produisent nos jugements et si elles favorisent la création, la lucidité et l'affirmation. Cette perspective ne dispense pas de critique et ne doit pas être convertie en culte de la force. Elle permet au contraire de repérer les simplifications et les récupérations politiques qui ont parfois défiguré Nietzsche. Par rapport à un traité philosophique classique, Zarathoustra se distingue par son refus d'une exposition scolaire et par la force de sa mise en scène poétique. Par rapport à un roman d'idées, il se distingue par l'absence de résolution narrative et par la densité de ses symboles. Le livre demeure marquant parce qu'il unit une analyse de la crise des valeurs à une écriture qui fait ressentir cette crise, au lieu de la décrire seulement. Si vous souhaitez soutenir Friedrich Nietzsche, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.